Le divorce est un thème qui fait débat dans notre société et qui est devenu un phénomène de société important. Si quelqu'un peut baisser un peu le micro là, c'est un peu fort. Merci. Combien de couples divorcent en France et pourquoi ? C'était le titre d'un article du site jurifiable.com, un site de conseil juridique. J'ai malheureusement pas pu trouver la date de cet article, je pense qu'il est de l'année 2018. Et cet article pose trois questions. La première, c'est quel est le nombre de divorces en France ? Et en moyenne, ce sont près de 130 000 divorces qui sont prononcés par an en France. Et sur une longue période, le nombre de divorces a considérablement augmenté. On dit par exemple, il y avait environ 45 000 divorces au début des années 1970. Alors on va laisser nos amis s'installer rapidement. Voilà, si vous voulez bien prendre place. Voilà. Donc ça veut dire qu'en même pas 40 ans, le nombre de divorces en France a triplé. Autre chiffre qui révèle l'importance du divorce en France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans, les femmes 44 ans. Conséquence de cela, plus d'1 600 000 enfants vivent aujourd'hui dans des familles recomposées. Et plus de 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leur nouveau conjoint. Donc c'est à peu près 8% des familles françaises qui sont des familles recomposées. Aujourd'hui, plus de la moitié des divorces sont des divorces par consentement mutuel. Donc les deux sont d'accord pour divorcer. Et les divorces pour faute, donc si l'un des deux a commis une faute, diminuent d'année en année. C'était près de 40% des causes de divorce au début des années 2000. Et c'est seulement aujourd'hui 10% des personnes qui divorcent à cause d'une faute dans le couple. Sinon, c'est parce que simplement on ne veut plus vivre ensemble. Deuxième question, qui choisit le plus souvent de divorcer ? Alors d'après cette enquête, ce sont les femmes qui demandent le plus souvent le divorce. Elles sont à l'origine de près de 3/4 des divorces contentieux. Donc des divorces qui ne sont pas réglés à l'amiable, comme on dit. Et l'article note que c'est une évolution considérable dans la société. Par le passé, c'était les hommes qui prenaient l'initiative de la majorité des divorces, notamment parce que les femmes qui n'avaient pas d'activité professionnelle il y a quelques dizaines d'années, dépendaient financièrement et économiquement de leur mari. Et comme la société a changé de ce point de vue-là, par exemple, près de 70% des femmes qui divorcent exercent une activité professionnelle, donc elles ont la possibilité d'assumer financièrement cette séparation. Dans plus de 80% des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde des enfants. Et dans 2/3 des divorces, la résidence du ménage est attribuée à la femme. Troisième et dernière question, quelles sont les causes les plus fréquentes du divorce en France ? La première raison, c'est l'infidélité, dans un divorce sur 3. Ensuite, l'égoïsme du partenaire, manque d'affection, manque de soutien, etc., 22%. Le mauvais caractère, 15% des divorces. Les comportements abusifs, notamment liés à la jalousie, 15% également. Et puis viennent ensuite des désaccords concernant l'avenir, l'incompatibilité dans le couple, l'argent et le travail quand un des deux est au chômage ou a des dettes. Et puis, dernière cause, 10% des cas, les beaux-parents. Donc, ouais. Alors voilà un thème qui touche notre société française. Et c'est un thème qui nous préoccupe en tant que chrétiens, hommes et femmes, dans notre monde aujourd'hui et dans notre société. Et c'est un thème qui faisait déjà débat à l'époque de Jésus. Je vous invite à trouver l'évangile selon Marc et le chapitre 10. Évangile selon Marc, chapitre 10, évangile que nous suivons déjà depuis quelque temps. Et nous sommes arrivés au chapitre 10. Nous avions vu dans les épisodes précédents déjà des débats entre les disciples, notamment pour savoir qui d'entre eux était le plus fort et qui d'entre eux était le plus grand. Et nous assistons cette fois, ce matin, à un nouveau débat, cette fois entre Jésus et les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, à propos du divorce, justement. Et nous lisons donc Marc, chapitre 10, les versets 1 à 12. Une courte lecture ce matin. Je lis. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui et, selon son habitude, il se mit à les enseigner. Les pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ?» Ils voulaient par là lui tendre un piège. Jésus leur répondit « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?» Ils lui répondirent « Moïse a permis de divorcer d'avec sa femme à condition de lui donner un certificat de divorce. » Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. » Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un, ou une seule chair, selon les traductions. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Jésus leur dit, « Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. » Voilà notre texte de ce matin. Le texte est court et le message central évident. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est la conclusion de Jésus dans le débat et c'est le titre de cette prédication. Je vais donc simplement développer cette idée principale en trois temps. Premier temps, nous allons aborder l'unité et l'égalité dans le couple homme-femme. Dans un deuxième temps, nous allons préciser qu'est-ce que ça veut dire une seule chair ou ne faire qu'un dans le couple. Et troisièmement, je proposerai quelques pistes pour réfléchir comment faire la volonté de Dieu dans notre situation personnelle, parce que nous avons des situations personnelles différentes à ce sujet. Premier point, unité et égalité dans le couple homme-femme. Notre passage commence au verset 1 par un rappel de la situation, du contexte. Jésus se déplace dans une nouvelle région, la Judée, et là, il enseigne les foules qui se rassemblent auprès de lui. Et des pharisiens l'abordent pour débattre avec lui au sujet du divorce. Et Marc, l'auteur, l'évangéliste Marc, nous dit que ce n'était pas avec une bonne intention que les pharisiens abordent Jésus, mais pour lui tendre un piège. Et c'était un des thèmes, le divorce, qui était très discuté à l'époque, avec des partis qui se formaient selon les idées qu'on avait sur le divorce. Donc un sujet très controversé. Et donc sur ce sujet controversé, on interpelle Jésus pour lui demander ce qu'il en pense. Voilà. En guise de réponse, Jésus interroge les pharisiens au sujet de ce que Moïse leur a commandé. Verset 3. Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? C'est la question que Jésus leur pose. Et de la même manière, au verset 5, Jésus leur dit par deux fois, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Donc Jésus s'adresse aux pharisiens de manière personnelle. Qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Les pharisiens, eux, répondent simplement par ce que Moïse a permis, formule impersonnelle, hein, donc ils ne s'impliquent pas dans le débat, là. Et il cite un passage du livre du Deutéronome au chapitre 24. Je vais lire ce passage rapidement. Ne le cherchez pas, je vais juste le citer rapidement. Deutéronome 24, les trois premiers versets. C'est un texte de la loi de Moïse qui dit « Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors, il rédige une lettre de divorce ou un certificat de divorce et il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après être parti de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Supposons que ce second mari cesse aussi de l'aimer, qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, la lui remette et la renvoie chez lui, ou supposons qu'il meure. Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyée n'aura pas le droit de la reprendre pour femme, car elle est devenue impure pour lui, et ce serait une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne chargerez pas de péché le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. » Donc là, c'est pour répondre un peu à la question, si on a divorcé et que on s'est remis en couple avec quelqu'un d'autre, remarié avec quelqu'un d'autre, et qu'il y a de nouveau un divorce ou il y a un décès, est-ce qu'on a le droit de se remarier avec sa première épouse? Le texte répond non. Et donc, c'est ce passage que les pharisiens citent pour répondre à la question de Jésus, quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Alors, puisqu'ils savent citer les textes bibliques, Jésus leur montre que lui aussi, il connaît la loi. Verset 6. Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. Là, Jésus cite Genèse, chapitre 1, verset 27. Et juste après, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. C'est Genèse, chapitre 2, verset 24. Donc vous voyez, quand Jésus demande aux pharisiens ce que Moïse leur a donné comme commandement, Jésus pense au principe général qui concerne le mariage, à savoir quand un homme et une femme s'unissent pour la vie. Les pharisiens, eux, quand ils entendent le mot « commandement », « qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?», ils vont chercher les petits versets de la Bible qui parlent de la manière dont on peut s'affranchir de ce principe général. Alors, petit rappel, dans la Bible juive, ce qu'on appelle la loi, la Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. D'accord ? Tout ça, c'est les livres de la loi. Donc c'est intéressant. Jésus parle de la loi, il pense au texte de la Genèse qui pose les bases du mariage. Et quand les pharisiens entendent la loi, ils prennent des textes plus précis sur des textes de loi, mais ils utilisent ces textes pour contourner les grands principes de la loi. Jésus, lui, insiste sur l'unité dans le couple. Et c'est ça pour lui, le commandement de Dieu. Quand vous signez un contrat, par exemple, un contrat d'assurance, vous avez normalement lu tout le contenu du contrat, n'est-ce pas? Ou quand vous vous abonnez à un site internet et que vous avez toutes les règles, vous cliquez pas immédiatement sur « lu et approuvé ». Vous avez lu, n'est-ce pas, toutes les clauses du contrat qui vous engage. Dans le contenu de ce contrat, il y a des grandes lignes et des petites lignes en bas de page. Dans le texte principal, vous avez les grandes lignes du contrat, les grands principes qui vous lient avec l'assureur. Et dans les petites lignes en notes de bas de page, vous avez plutôt des éléments qui vont préciser les grandes lignes. Ces petites lignes sont importantes. Si vous ne les lisez pas, vous risquez d'avoir des surprises par la suite. Mais le plus important, ce sont les grands principes du contrat. Eh bien, c'est un peu pareil ici. Jésus demande aux pharisiens quelles sont les grandes lignes écrites par Moïse dans leur contrat, la loi juive. Et eux, ils citent les petites lignes en petit caractère en bas du contrat pour justifier qu'ils n'ont pas à respecter les grandes lignes. Donc, vous voyez, ils prennent le contrat et ils disent « Voilà ce que Moïse a commandé » et Jésus leur dit « Mais ça, c'est l'avenant au contrat. C'est pas le contrat de départ. » Jésus dit aux pharisiens que ces petites lignes du contrat qu'il cite, donc Deutéronome chapitre 24, c'est juste, ce n'est pas faux. Mais il rappelle aux pharisiens que Deutéronome 24, ce n'est pas le contrat de départ, la volonté de Dieu au départ. C'est un avenant qui a été ajouté parce que le contrat de départ n'était pas respecté par l'être humain. Alors que ces pharisiens disent, si, si, c'est le contrat, j'ai le droit de renvoyer ma femme. C'est marqué dans les petites lignes en bas là. Au verset 9, Jésus confirme que le commandement dont il parle, c'est bien le principe que l'on trouve dans Genèse chapitre 2, verset 24. Je relis le verset 9, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Jésus cite la Genèse pour confirmer ce qu'il dit. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Le verbe est à l'impératif ici. Voilà le commandement essentiel pour Jésus. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pour ça que c'est le titre de notre prédication ce matin. Jésus rappelle aux pharisiens, qui sont des hommes, leur responsabilité devant Dieu dans le mariage. Ils ont le devoir de rester unis à leurs épouses. Respecter les grandes lignes du contrat, on pourrait dire du contrat de mariage, ce n'est pas une option. La fidélité et l'unité et l'égalité dans le couple, ce ne sont pas des options. Divorcer, dit Jésus, c'est péché contre l'épouse dont on se sépare. C'est ce qu'il dit au verset 11, dans un dialogue plus privé avec ses disciples, « Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. » Alors vous noterez au passage que, sur ce thème des relations avec leur femme, les disciples sont plus bavards que quand Jésus leur avait parlé de sa mort. Au chapitre 9 et au verset 31, nous avions lu il y a quelques semaines, Jésus donc qui disait à ses disciples, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le feront mourir, mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Et eux, les disciples, ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de lui demander des explications. Ben là, ils n'ont pas peur de demander à Jésus des explications. Comment ça, les hommes n'ont pas le droit de renvoyer leurs femmes ? Le principe clé, donc, que Jésus rappelle ici, c'est que nous devons préserver l'unité de notre couple, homme-femme. Préserver l'unité. Alors ici, dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de clause restrictive dans le contrat, comme on voit par exemple dans l'évangile selon Matthieu, où Jésus dit que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, sauf dans un cas d'infidélité. Donc dans notre texte ici, Jésus rappelle simplement les bases du plan de Dieu pour le couple homme-femme depuis le commencement, c'est ce qu'il dit. Et pour que personne ne pense que ce principe n'est valable que pour des hommes envers leurs épouses, Jésus rappelle immédiatement qu'il s'adresse de la même manière aux femmes. Verset 12. Si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Il y a là une véritable égalité homme-femme. À l'époque, cette précision pouvait peut-être paraître superflue, car c'était essentiellement des hommes qui demandaient le divorce. Les femmes n'ayant en général pas les ressources matérielles pour assumer une telle séparation. C'était aussi le cas, je l'ai dit en introduction, il y a plusieurs décennies dans notre société française. Mais de nos jours, Le rappel de cette parfaite égalité devant Dieu dans le mariage est essentiel. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que la femme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Regardons maintenant d'un peu plus près ce que signifie cette expression « une seule chair » ou « ne faire plus qu'un » dans le couple. Puisque Jésus insiste autant sur l'unité du couple homme-femme, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette expression de Genèse 2, 24. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme devant Dieu et devant la communauté humaine. C'est une alliance, d'ailleurs c'est bien une alliance que les époux se passent au doigt le jour J. Et faire alliance, ça ne veut pas dire fusionner l'un avec l'autre. Chacun des partenaires, l'homme et la femme, garde sa singularité. Le mariage n'est donc pas la perte de son identité, mais l'alliance entre deux personnes qui crée une nouvelle cellule familiale. Et c'est d'ailleurs aussi souvent l'alliance entre deux clans ou deux familles dans la plupart des cultures. Le mariage, c'est donc une union, mais sans fusion. Et quand un homme et une femme s'unissent dans le mariage, ils s'unissent sur tous les plans. Alors là, je vais déborder un peu du cadre de notre texte de Marc chapitre 10, parce que Jésus ne développe pas spécialement ce thème, mais il me semble important que nous comprenions ce que cela veut dire concrètement, l'union conjugale, parce que c'est cela que nous sommes appelés à vivre. Et je vois 5 grands domaines dans lesquels un homme et une femme mariés sont appelés à vivre l'unité. Et ces domaines recouvrent toute la vie de couple. Premièrement, devenir une seule chair, ne former qu'un, c'est évidemment s'unir sexuellement. C'est le mot chair dans son sens physique. La sexualité fait partie du plan de Dieu pour le couple homme-femme. C'est une belle et bonne chose. À partir du moment où un homme et une femme s'unissent dans le mariage, ils sont libres de s'unir physiquement, sexuellement, et cette relation sexuelle à deux est exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut toute autre personne de cette intimité à deux. Et elle exclut toute relation sexuelle en dehors du mariage, donc aussi avant le mariage. Et les enfants qui arrivent dans le foyer n'ont d'ailleurs pas leur place dans l'intimité du couple parental, ni aucune autre personne. Pas de relation sexuelle à trois ou en groupe, pas de relation adultère. Contrairement à ce qui est véhiculé comme publicité aujourd'hui, l'adultère n'est en rien une manière de pimenter ou de relancer sa vie de couple. L'adultère, ce n'est pas un piment, c'est un poison qui détruit le couple. La sexualité humaine est une belle et bonne chose lorsqu'elle est vécue dans le cadre prévu par Dieu, le mariage entre un homme et une femme. Deuxièmement, une seule chair veut dire aussi communauté de vie, c'est-à-dire vivre ensemble physiquement. Et vivre ensemble, ce n'est pas seulement vivre sous le même toit. Donc, pas de chambre à part, pas un des conjoints qui dort avec un des enfants et l'autre conjoint qui dort dans la chambre d'un autre enfant. Ne faire qu'un, c'est avoir des temps de partage en couple, de complicité, d'échange. Attention de ne pas vivre chacun avec son smartphone côte à côte dans la maison. Vous êtes marié avec votre conjoint, pas avec votre smartphone. Et c'est un défi de préserver une communauté de vie, en particulier si les deux travaillent et s'il y a des enfants à la maison. Troisièmement, une seule chair, c'est encore une communauté de biens. C'est d'ailleurs le statut juridique de la plupart des couples mariés en France. On dit « sous la communauté des biens ». Parfois, un couple procède à une séparation des biens, si par exemple l'un des conjoints a une activité professionnelle qui nécessite de cloisonner les finances du couple, du foyer. Mais quoi qu'il en soit au niveau juridique, lorsqu'on est marié, les biens et les finances de l'un sont les biens et les finances de l'autre. Attention à « c'est mon argent ». Devant Dieu, dans un couple, c'est l'argent que Dieu nous confie. C'est l'argent que Dieu nous confie. Mon argent, ma voiture, ma carte bleue, mon salaire sont autant de formules qui peuvent finir par séparer ce que Dieu a uni. Cela veut donc dire, par exemple, que le budget du foyer doit être décidé à deux. L'un des deux peut être celui qui fait les comptes, qui tient les comptes, mais les comptes doivent être clairs pour le couple. Par exemple, qu'est-ce qui entre comme argent et qu'est-ce qui sort comme argent du foyer? Qui gagne quoi? Il faut que ce soit clair. On ne peut pas cacher son argent à son conjoint. Autre chose, qu'est-ce que nous donnons comme offrande chaque mois? Quelles sont les dépenses fixes? Loyer, charges? Quelle part de notre budget pouvons-nous consacrer aux loisirs, à l'aménagement de l'appartement? Dans quelle ligne du budget pouvons-nous faire des économies pour donner cet argent à des personnes qui en ont besoin? Missionnaires, œuvres caritatives, associations, etc. Voilà le genre de discussions conjugales qui peuvent favoriser une vision commune de nos finances. Nous sommes redevables envers notre conjoint de la manière dont nous gagnons l'argent du foyer, honnêtement ou malhonnêtement. Et de la manière dont nous dépensons l'argent du foyer. Je dépense mon argent comme je veux, je fais ce que je veux avec mon argent. C'est pas possible cette mentalité-là dans le couple chrétien. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut avoir une partie de l'argent du foyer que l'on dépense pour des loisirs personnels. Mais c'est l'argent du foyer. Quand on est célibataire, notre responsabilité de gérer nos finances devant Dieu est engagée de la même manière. Quatrièmement, une seule chair signifie aussi une unité sociale. En tant que couple, nous avons des relations communes, des relations de famille, des amis, une église locale. Alors bien sûr, on ne fait pas tout ensemble. Chacun a des relations amicales ou professionnelles, par exemple, que l'autre n'a pas, ou pas avec les mêmes personnes. Cela dit, ces relations extérieures ne doivent pas nuire à l'unité du couple. Attention au temps consacré au club de sport, aux copains ou aux copines, au travail, aux conversations téléphoniques, etc. Cinquièmement, et dernièrement, une seule chair, c'est aussi l'unité spirituelle. C'est un aspect essentiel qui est malheureusement souvent négligé. Et là encore, ce n'est pas une option. Je connais trop de personnes chrétiennes qui n'ont pas hésité à se mettre en couple avec quelqu'un qui ne l'est pas. Or, si nous sommes chrétiens, notre conjoint ne doit pas simplement tolérer nos croyances. Il doit les partager, les vivre lui-même, afin que nous soyons un spirituellement. Demandez à ceux qui sont devenus chrétiens après leur mariage ce que c'est de vivre au quotidien avec un conjoint non chrétien. C'est une épreuve douloureuse. Ce n'est pas une situation normale. Il y a quelque chose qui manque dans le couple. Il manque cette unité spirituelle. Alors, bien sûr, dans ces situations, le Seigneur veut faire grâce et encourager le conjoint chrétien à persévérer dans la vie de couple avec le conjoint non chrétien, si celui-ci l'accepte, c'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens 7. Et Dieu donne aussi la force de prier pour le salut de son conjoint. Mais c'est difficile à vivre. Par contre, si vous êtes chrétien ou chrétienne, et que vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui ne l'est pas, tout en demandant à Dieu de bénir ce projet, vous êtes en train de provoquer Dieu. Comme les pharisiens ici, qui essayent de tendre un piège à Jésus. Mais je prie pour que mon compagnon se convertisse. C'est ce qu'on entend parfois. C'est louable. Mais ça ne justifie pas votre choix amoureux. Votre choix doit être selon le Seigneur. C'est encore ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 7. C'est-à-dire conforme à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu dans le couple homme-femme, c'est aussi l'unité spirituelle. Si vous êtes chrétien, chrétienne, et que vous voulez vous marier, votre conjoint doit être lui aussi chrétien et pas vaguement croyant. Il en va de l'unité de votre couple devant Dieu et devant les hommes. Alors, quelques pistes pour essayer de faire la volonté de Dieu dans notre situation personnelle. Ça sera le troisième et dernier temps de cette prédication. Ces paroles de Jésus, ce matin, devraient nous aider à revoir notre mentalité par rapport aux relations hommes-femmes. Donc je donne simplement quelques pistes. Si vous êtes chrétien, chrétienne, et célibataire, non marié ou divorcé, et que vous cherchez un conjoint, cherchez un conjoint chrétien. Visez une relation d'unité sur tous les plans, notamment sur le plan spirituel. Ne vous laissez pas séduire par le discours ambiant qui vous dit que vous pouvez essayer à droite à gauche avant de trouver le bon numéro. N'imitez pas ceux qui se disent chrétiens et qui se mettent en couple avec un non-croyant en espérant qu'il va changer. La plupart du temps, ce n'est pas le non-croyant qui devient chrétien, c'est le chrétien qui fait naufrage dans la foi. Ça, c'est la réalité, les amis. Si votre célibat fait suite à un divorce et que vous voulez vous remettre en couple, prenez le temps d'analyser les raisons de votre échec ou de vos échecs précédents. Car le divorce est toujours un échec et un péché au regard du principe divin que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est Jésus qui nous le rappelle. Quand un couple divorce, cela veut dire qu'au moins un des deux conjoints, et souvent les deux, n'a pas respecté l'unité du couple, justement, et a manifesté du mépris, de la violence, de la tromperie, etc. Et quand on finit par se séparer, par divorcer, on ne peut pas simplement enchaîner immédiatement sur une autre relation parce qu'on en a besoin, physiquement ou sentimentalement, ou parce qu'on a peur de la solitude. C'est une réalité aussi, nos besoins physiques, sexuels, sentimentaux. Mais il faut à un moment se demander ce qu'on fait, ce que l'on cherche et qu'on n'arrive pas à trouver ou qu'on n'a pas réussi à trouver dans ces relations qui se succèdent. Un accompagnement est parfois nécessaire pour ne pas répéter sans cesse les mêmes erreurs. Ça peut être un accompagnement pastoral, ça peut être un accompagnement professionnel ou les deux. Nous sommes aussi pécheurs dans le domaine des relations hommes-femmes. Et il ne faut pas négliger les conséquences de nos actes dans ce domaine. Dieu veut nous amener à la repentance pour renouveler notre mentalité dans ce domaine aussi. Donc si vous êtes chrétien et célibataire, faites tout ce qui est possible pour trouver un conjoint chrétien, si vous souhaitez vous remarier. Alors si vous ne cherchez pas quelqu'un d'autre, oui, ça arrive. Ces paroles de Jésus nous rappellent que les couples mariés forment une unité et nous invitent, en tant que célibataires qui ne cherchent pas à se remettre en couple, à respecter cette unité dans la vie des autres. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas à vous immiscer dans la vie du couple des autres, y compris dans l'Église. Vous pouvez au contraire prier pour que les couples mariés restent unis. Deuxième cas de figure, si vous êtes chrétien et marié, si vous êtes marié avec un chrétien ou une chrétienne, persévérez dans l'unité de votre couple. Jésus insiste, c'est le rôle de chaque conjoint, homme et femme, de contribuer à l'unité du couple. Ni l'homme ni la femme ne doivent séparer ce que Dieu a uni. Prenez peut-être un temps à part cette semaine, pendant les vacances, pour faire le bilan de l'unité de votre couple dans les 5 domaines que j'ai évoqués. Vie sexuelle, vie commune, finance, vie sociale, vie spirituelle. Soyez un modèle d'unité et une source d'encouragement pour les autres couples autour de vous. Si votre couple traverse actuellement ou régulièrement des difficultés importantes, d'autres couples chrétiens sont à votre écoute pour prier avec vous, ici dans cette église ou ailleurs. Il n'y a aucun couple parfait, ni dans cette église, ni ailleurs. Réagissez avant que votre couple fasse naufrage. Il y a aussi des conseillers conjugaux chrétiens qui peuvent apporter une aide extérieure. Dieu nous appelle au pardon et à la réconciliation dans la vie de couple aussi. Enfin, si vous êtes chrétien, chrétienne, et marié avec un non-chrétien, persévérez, vous aussi, dans l'unité de votre couple. Il y a des domaines dans lesquels la communion va manquer, notamment la communion spirituelle. Accrochez-vous au Seigneur pour faire face aux épreuves et pour faire votre part dans les autres domaines de la vie de couple. Soyez témoins au sein de votre couple et auprès de vos enfants de la grâce que vous avez reçue en Jésus-Christ. Là aussi, un soutien des frères et sœurs en Christ est précieux pour garder courage. J'ajouterai pour conclure que cet appel de Jésus à l'unité homme-femme résonne aussi dans nos relations d'Église. Continuons à apprendre de Christ comment nous aimer et nous respecter entre hommes et femmes au sein de l'Église. En Jésus-Christ, Dieu a fait de nous des frères et des sœurs unis par le même esprit, l'Esprit de Dieu. Soyons des ouvriers dans ce chantier d'unité dans l'Église de Jésus-Christ. Nous allons prier. Notre Dieu, c'est un défi que tu nous rappelles et que tu nous lances à nouveau ce matin, de vivre dans l'unité conjugale, si nous sommes mariés, dans l'unité spirituelle, en tant qu'Église. Tu connais nos forces et nos faiblesses dans ce domaine, individuellement et en tant que communauté. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, nous puissions, dans nos foyers et dans ton Église, réaligner notre mentalité sur